Je vous invite ce dimanche à nous arrêter sur la dernière partie de notre armure spirituelle dont Paul nous parle dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Un verset donc dans ce fameux chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Paul évoque ici le casque du salut. Le casque qui, dans l'armure du soldat de l'époque, protégeait, ça je ne vous apprendrai rien sans doute, la tête. Inutile de vous dire que sans ce casque, le soldat risquait ni plus ni moins que la mort. Pas besoin d'être un spécialiste en matière militaire pour savoir que tout coup porté à la tête peut être considéré comme potentiellement fatal. Ce casque spirituel, nous dit Paul, est celui du salut. Perikyphala soteriou, en grec, ça va changer votre dimanche. Qu'est-ce que Paul veut bien vouloir dire par là? Un proverbe pris dans l'Ancien Testament va nous aider à comprendre ce que l'apôtre a à l'esprit. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Je vais peut-être traduire ça. Tout comme l'eau reflète votre visage, vos pensées reflètent ce que vous êtes. Comme le disait quelqu'un, vous êtes ce que vous pensez. Autrement dit, ce sont vos pensées qui sont ici mises à l'abri par votre casque, et en particulier celles concernant votre statut devant Dieu. Il s'agit donc bien ici de l'assurance pleine et entière concernant votre salut éternel. Venez-en à douter de votre statut en Dieu, en Christ, et votre vie va se compliquer singulièrement. Tout d'abord, si vous doutez de votre salut, vous ne ferez jamais rien pour votre Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas servir Dieu en étant habité par le doute, l'angoisse, l'anxiété et les questionnements concernant une chose aussi fondamentale. Pour servir, il faut être en paix par rapport à la mort, en paix par rapport à notre destination finale, en paix en l'amour de Dieu, en paix par rapport à l'existence de Dieu. Et peu importe, et c'est un côté assez terrible sans doute, peu importe que nos doutes nous semblent justifiés ou pas, l'important c'est que nous y attacherons de l'importance. Peu importe que ce que vous pensez soit juste ou pas, si c'est vous pensez mal, vous attacherez quand même de l'importance à vos pensées et ça vous mènera sur un chemin qui mène à la mort. Dans ce contexte-là, pour un enfant de Dieu, je ne parle pas de la mort éternelle, bien entendu, mais de la mort tous les jours dans sa propre vie. Pour ceux qui l'ont été, quand nous étions jeunes chrétiens, c'était hier, fraîchement convertis, nous doutions régulièrement de notre salut. En tout cas, moi. Nous nous reconvertissions toutes les semaines, ou presque, étant donné que nous n'avions comme seule référence que nos changements profonds, nos progrès, et que souvent nous ne voyions que ce qui ne changeait pas, et pas ce que Dieu était en train de changer. Tout ne s'est pas réglé en une semaine dans notre vie, loin s'en faut. D'où nous est venue donc notre assurance finalement? Eh bien de la parole de Dieu et de versets tels que ceux-ci, il y en a bien plus qu'un bien entendu, la suivante, merci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un jeune converti se reconvertit tous les jours car sa conscience est plus présente en lui que la connaissance de Dieu. Il s'appuie plus sur la connaissance qu'il pense avoir de lui-même et de son péché et de son dysfonctionnement que sur la connaissance qu'il a de Dieu et de sa parole. La connaissance de Dieu permet de rééquilibrer cette vision des choses. Un jeune converti, sa conscience est allumée par la présence de l'Esprit-Saint. Il sait qu'il est à côté de ses pompes, comme on le dit vulgairement. Mais il n'a pas encore de capacité en lui de rééquilibrer ce message qu'il s'envoie tous les jours de sa vie. Ce qui va rééquilibrer ce message, c'est ce que Dieu dit de sa position, de ce que Dieu dit de son quotidien. Donc c'est au travers de l'Esprit-Saint, opérant sa régénération et faisant vivre la parole en nous, la validant, scellant notre cœur et le marquant à jamais par elle, que l'assurance est venue, qu'une douce certitude nous a finalement envahis. C'est au fur et à mesure que l'on grandit dans la parole que le doute s'estompe et finit par disparaître. Notre ennemi nous attaque ou notre ancienne nature fait des siennes, peu importe, parce que nous savons que, et je cite Paul toujours dans Romains 8, « Rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ, notre Seigneur, ni Satan, ni nous-mêmes et notre conscience. Au passage, ne nous accusons donc pas trop, puisque le diable s'en charge, mais ne nous éloignons pas non plus. Demandons pardon quand c'est nécessaire. Et nous comprenons mieux dès lors dans notre texte d'Éphésiens pourquoi Paul lie aussi étroitement l'assurance de notre salut éternel à l'Esprit et à la parole de Dieu. Rappelez-vous, Jésus, lui-même, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, au début de son ministère, ne rentra pas en lui-même pour s'examiner ou évaluer ce que Satan lui disait. Il n'a pas discuté avec lui. Il s'est contenté, si je puis dire, de lui répondre en citant la parole de Dieu. Pas d'échange, la parole de Dieu. Quant à l'Esprit Saint, il était lui aussi bien présent au désert, puisque c'est lui, nous dit l'Évangile, qui avait conduit Jésus, justement, afin d'y être tenté. C'est un peu, si vous voulez, cette articulation dans ces trois tentations, et la réponse, l'obstacle que Jésus met aux insinuations du diable par la parole de Dieu, qui a validé le ministère de Jésus, son ministère commencera effectivement après ce passage. On peut aussi relever que dans notre armure, la parole de Dieu est notre seule arme offensive, ou de riposte, à savoir l'épée. Nous ne devons en aucun cas utiliser une arme autre que celle-là, car elle est la seule pleinement efficace dans le combat spirituel. Si vous vous surprenez à utiliser une autre arme que la parole de Dieu, c'est que vous vous êtes trompé d'ennemi. Rappelez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, autrement dit contre des hommes, contre des êtres humains. Aucun humain, même le pire d'entre eux, ne peut être notre ennemi. Nous n'avons pas d'ennemis dans la chair. Je sais bien que c'est difficile à admettre. Hein. Mais c'est même pas votre chef de service, et c'est une... Ok. Nous devons par contre lutter contre les esprits qui parfois sont à l'œuvre derrière certains types de comportements. En réfléchissant sur ce texte, sur ce verset d'Éphésiens, j'ai un peu repris conscience du privilège qu'il y avait à être sauvé, à être certain, convaincu, sûr, avoir la certitude de pouvoir un jour rentrer pleinement dans la présence de Dieu et pouvoir vivre avec lui toute l'éternité durant. Nous qui sommes en Christ, nous avons la certitude d'être accueillis par Dieu. On s'habitue sans doute à ça et on ne devrait pas. On ne devrait vraiment pas. Le christianisme biblique, donc qui met la Bible au centre de sa théologie, de sa piété, de son ecclésiologie et de son eschatologie, est la seule religion, même si je n'aime pas ce terme, qui affirme que l'on peut être certain de son salut. C'est la seule. Tu as déjà réfléchi à ça ? C'est la seule. Tous les autres, d'une manière ou d'une autre, c'est la panique ou alors c'est l'orgueil et la suffisance. Je vais me limiter au monothéisme. Qu'en est-il dans l'islam, dans le judaïsme? Pour le dire autrement, les musulmans et les juifs croyants sont-ils sûrs d'être sauvés? Sont-ils sûrs de leur salut, de leur statut éternel? Alors, je ne suis évidemment ni un spécialiste de l'islam, ni un spécialiste du judaïsme, même si je connais un peu mieux ce dernier, forcément. Je sais en outre que dans toutes les religions, il y a des divergences de vues sur certains points. Il est donc fort probable que ce soit le cas pour le sujet qui nous occupe également, à savoir le salut. Mais je vais me lancer malgré tout. Dans le judaïsme, c'est le fait d'être juif et d'obéir à la loi de Moïse qui procure le salut aux pratiquants. J'en parle le terme pratiquant volontairement, puisque là, on pratique une religion, on fait des choses en vue d'être agréé par Dieu. Mais la question qu'il faut se poser, et que tout l'Évangile va poser, et même l'Ancien Testament, c'est « Est-il seulement possible d'obéir parfaitement aux exigences de Dieu sans l'aide de Dieu par nos propres forces ? » Est-ce que l'homme est capable de faire ça ? Ben, je pense qu'il ne faut pas réfléchir très longtemps pour se dire « Si Dieu est Dieu, donc c'est-à-dire totalement différent de moi, et qu'il a certaines exigences morales et éthiques, il est clair que par mon propre comportement, déviant la plupart du temps, limité, fragile, je ne pourrai jamais rentrer dans l'acceptation de Dieu. » Jésus, en tout cas, est relativement clair, et quand je dis relativement, c'est un euphémisme. Jésus s'est toujours appuyé sur l'Ancien Testament pour appuyer ses dires, forcément. à quasi chaque page de l'Évangile, il dénonce l'attitude orgueilleuse, cette prétention à obéir parfaitement aux exigences de Dieu, et il la dénonce comme un leurre, une illusion, un aveuglement. Ce n'est pas pour rien que dans le chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu, si vous êtes courageux, relisez-le, où Jésus s'adresse, et il va être arrêté un peu plus tard, dans le temple aux responsables religieux de son époque, il va les traiter de conducteurs aveugles. C'est un oxymore, ça. Conducteur aveugle. Qui montera en voiture avec un aveugle? Pourtant, à l'époque, c'est ce que tous les Juifs, sans le savoir, faisaient en plaçant leur confiance dans l'enseignement et dans l'attitude de tous ces hommes. Conducteur aveugle, c'est le vocable dont Jésus traite ses auditeurs, les responsables religieux de son temps. Il ira même jusqu'à affirmer ceci, Matthieu 23, 13. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, ça commence bien, parce que vous fermez aux hommes l'accès du royaume des cieux. » Comment font-ils en fait pour fermer l'accès du royaume des cieux? Par leur enseignement et par leur exemple. Par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font, Jésus leur dit « Vous fermez l'accès aux hommes du royaume. » Et il rajoute « Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » L'apôtre Paul, quelques années plus tard, le redira avec force, entre autres dans son épître aux églises de Galatie, menacé par un retour au légalisme de la loi. Galates 2, 16. « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Paul le redit, comme son maître l'a dit avant lui, « Si vous voulez être sauvé en obéissant à la loi de Dieu, il faut obéir à tous les commandements parfaitement, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, toute votre vie durant. C'est impossible. Comme c'est impossible, nous avons besoin d'un sauveur, l'homme a besoin d'un sauveur, qu'il soit juif ou pas, et ce sauveur, c'est le Christ. C'est la foi placée dans son œuvre à lui, sa vie, sa mort et sa résurrection. » Deux autres affirmations sur le même sujet, pour vous dire que c'était prégnant à l'époque, et ça l'est quelque part encore aujourd'hui. Plein de gens vous croisent dans la rue, disent « Oui, mais je suis un mec bien, moi. S'il y a un Dieu qui existe, il va m'accueillir. Je suis un mec bien. » Dès qu'un homme s'évalue lui-même, il est déjà à côté de ses chaussures. Romains 3, 20. « Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. » Et Paul continue en rajoutant « La loi permet seulement de prendre conscience du péché. » Dieu a donné sa loi, vous dit « Voilà mes exigences, voilà ce que vous êtes. Vous ne savez pas y obéir, vous avez donc besoin que quelqu'un le fasse à votre place. Ce quelqu'un, c'est mon fils Jésus. » Et enfin, toujours Romains 10, là, « En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu, il parle des Juifs, rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être, à savoir l'obéissance religieuse, pratiquer des choses extérieures. Ainsi, continue-t-il, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. Ils se coupent du salut de Dieu. C'est la foi qui sauve, la foi en ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, pas une pseudo-parfaite obéissance à la loi de Dieu. » Ça, c'est pour le judaïsme, en gros, en gros. Dans l'islam, à part certains écrits récents de théologiens réformateurs universalistes, qui sont musulmans, qui disent que Allah fera rentrer tout le monde dans son royaume, quel qu'il soit, en fait, il n'y a aucune garantie non plus. Si ce n'est pour certains, nous le savons malheureusement, de mourir martyr en tuant des non-musulmans. Alors, si ces derniers ont raison et possèdent la bonne lecture du Coran, ce n'est pas du croyant et de son salut qu'il faut douter, c'est de Dieu lui-même, un Dieu qui exigerait qu'on massacre ceux qui ne pensent pas comme lui. Ce Dieu-là, moi, j'évite. Pour les musulmans modérés, ils ont un ange sur chacune de leurs épaules, qui tiennent les comptes de leurs bonnes et mauvaises actions. C'est ce qu'on appelle les anges scribes, parce qu'ils prennent note. Il faut en effet savoir que dans l'islam, l'homme ne vient pas au monde pécheur, il est parfait quand il naît, et qu'une mauvaise action peut toujours être contrebalancée par une bonne. Quoi faut-il savoir? Que c'est la bonne qui contrebalance la mauvaise, soit de nature à la contrebalancer. Vous tuez un homme et vous distribuez des bonbons à partir du lendemain matin, je ne suis pas certain que ça va contrebalancer quoi que ce soit. Pour être complet, disons encore que les autres catégories d'anges dans l'islam sont les intercesseurs et les anges porteurs de la parole d'Allah. Pour lire autrement, donc encore aujourd'hui, pour les musulmans, les seuls qui peuvent transporter, apporter la parole d'Allah, ce sont des anges. Je vais une fois faire un recensement pour savoir combien de musulmans ont entendu parler d'un ange. Pas de certitude donc, et c'est normal puisque tout repose ici sur les efforts que l'homme fait pour faire plaisir à Dieu. Tout cela est difficilement conciliable avec ce que dit la Bible, vous en doutez, c'est d'ailleurs pour ça que le Coran n'est pas la Bible, et inversement. Un dernier petit texte, il y en a des centaines, hein, en Ésaïe 64, verset 5, et je l'ai pris volontairement dans l'Ancien Testament. Ah, j'ai oublié la référence, elle a passé à la trappe, c'est pas grave. Nous sommes tous impropres à ton service, au service de Dieu donc, comme un objet impur, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un lâche, un linge, taché de sang. Alors, je ne vais pas pousser trop loin, dans l'hébreu fait référence, ceux qui ont une petite connaissance de la loi du Lévitique vont s'en rappeler, fait connaissance à l'état d'un linge pendant les règles d'une femme. La femme réglée dans le judaïsme vétérotestamentaire était coupée et de son mari, et de la société, et du culte rendant à Dieu. Elle devait attendre d'être purifiée. C'est encore le cas aujourd'hui dans les communautés hassidiques. Il y a encore des endroits, entre autres à Jérusalem, où les juifs, entre guillemets, pieux, vous savez, les hassidiques, ben leurs femmes, elles doivent passer par ce bain rituel que prévoit la Torah. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu dit, tu penses que tu vas t'approcher de moi parce que tu fais de bonnes actions, tes bonnes actions, voilà ce qu'elles valent. Plus clair que ça, c'est quand même compliqué. Hein. Nous sommes d'accord ? Ça a l'air, hein, c'est pas... Okay. C'est gentil. En fait, bibliquement parlant, il n'y a eu qu'une seule personne, et j'ai compris ça la semaine passée. Ça fait peur. Hein. Bibliquement, Bible en main, il n'y a qu'une seule personne ayant reçu l'assurance de son salut de la bouche de Jésus. Et de cet exemple, nous pouvons déterminer ce qui doit faire partie du salut pour que ce salut soit selon le plan de Dieu, soit le salut comme le pense Dieu au travers de sa parole. Alors, quel est cet homme dans l'Évangile qui est le seul à qui Jésus a dit « Toi, t'es sauvé ». Le brigand sur la croix, on va prendre le texte. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui, avec Jésus bien sûr. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux autres malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors, je rappelle quand même que les malfaiteurs en question, la plupart des théologiens et des historiens de la Bible sont relativement d'accord pour le dire, ce n'étaient pas des petits voleurs à la semaine, hein. C'était des assassins, probablement des zélotes, non, j'ai déjà dit ça, mais je le rappelle. Donc des, on va employer le terme fort, mais soyons objectifs, des terroristes juifs qui tuaient des Romains. Okay, donc ce n'est pas des petits youyou, il a volé une boule, hein, pas du tout. Hein. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu, le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Vous connaissez tous bien ce texte, je pense. Hein. Et ce fameux mot, paradis, hein, qui est un apax, c'est pas un apache, hein. C'est pas Geronimo, c'est un apax. En théologie, un apax, c'est un terme qui n'apparaît qu'une fois dans le texte, dans les textes. Une seule occurrence, donc. C'est le seul endroit où la Bible emploie, et c'est peut-être pour rien que ce soit Jésus qui emploie ce texte, paradisos, en grec. Alors, je vais peut-être redéfinir ce paradisos, parce qu'autrement, on va avoir du mal à y voir clair. En parlant du paradis, Jésus ne fait pas référence ici à la résurrection, mais bien à un lieu le paradis, un lieu intermédiaire dans lequel les morts en Christ attendent la résurrection. C'est un lieu d'attente. Un lieu où Jésus, c'est pour ça qu'il peut affirmer que le brigand sera avec lui dans le paradis, un lieu où Jésus se trouvera lui aussi pendant 3 jours, puisqu'il va passer par la mort, avec le brigand crucifié avec lui. Il dit, tu seras dans cet endroit avec moi, dans quelques minutes, quelques instants. Jésus lui dit bien la vérité. Ce qui explique aussi, Jésus est le Fils de Dieu, il connaît un peu la parole, puisqu'il est la parole incarnée, ce qui explique aussi pourquoi dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la mort est considérée comme un repos, un endormissement. C'est important de comprendre ça. Il faut s'éloigner, je l'ai déjà dit, mais je l'ai répété, il faut s'éloigner, si on veut rester biblique, de la vision grecque de Dieu que l'Église, la théologie chrétienne, a embarqué avec elle dans les 2-3 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et qui fait que le chrétien, quand il décède, hein, il pense qu'il va avoir des petites ailes dans son dos et rentrer tout en blanc avec une sorte de son âme, va flotter dans les airs, aller rejoindre un paradis blanc, éthéré, comme des entreprises pharmaceutiques. De là aussi cette vision, les gens qui disent, excusez-moi l'expression, hein, j'ai des amis qui m'ont dit ça, si c'est ça le paradis, qu'est-ce qu'on va s'emmerder, quoi ? On peut comprendre. Il faut rester biblique, hein, vraiment. On sait donc au cours des siècles, dans l'histoire de l'Église, en théologie, sur cette dynamique-là, on s'est éloigné de la substance, du substrat juif de l'Écriture. C'est confirmé, ça n'étonnera personne, ceci est confirmé par Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 51-52. Et là aussi, ma grande surprise de redécouvrir que seul John Nelson Darby a bien traduit le grec. On se demande pourquoi les autres ne l'ont pas fait. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, écoutez bien, il ne verra, pas la mort. Les Juifs vont donc lui dire, maintenant nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort et les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort. Donc il ne verra pas la mort, il ne goûtera même pas le goût qu'a la mort. Jamais, dit Jésus. Celui qui garde mes paroles ne verra pas. Théoréo. La mort et n'y goûtera pas. Geuomae. Il ne verra pas, il ne goûtera pas. Vous avez déjà lu ce texte, hein ? Ça vous a jamais explosé la tête, ce texte ? Honnêtement. Pourquoi est-ce que Jésus peut affirmer un truc pareil ? Il parle quand même du statut de la mort et de notre statut dans la mort. Hein ? La communion avec Dieu, commencée avec la nouvelle naissance, n'aura pas de fin, car elle est éternelle. Vous êtes né éternellement le jour de votre nouvelle naissance. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer ça ? Parce que vous avez reçu la vie éternelle en la personne de l'Esprit-Saint. Donc votre vie éternelle a eu un commencement, le jour de votre rencontre avec Dieu, le jour de votre nouvelle naissance, comme l'appelle Jésus, et la fin de cette vie, elle n'arrivera jamais. Ce que Jésus dit ici aux pharisiens, c'est « Celui qui est en moi et moi en lui », sa vie n'aura pas de fin, même la mort n'aura pas d'impact. Même la mort ne tranchera pas dans cette réalité éternelle une milliseconde. La vie éternelle ne connaîtra pas une milliseconde d'arrêt, c'est ce que Jésus dit. Nous n'en verrons pas la fin, donc la mort n'est pas la fin de la vie éternelle, mais c'est important ce qu'il dit. Hein. Nous n'en verrons pas la fin et nous n'en goûterons pas la fin parce qu'elle n'a pas de fin. C'est la vie éternelle, mes amis. Elle ne pourrait pas avoir de fin. Donc, cette vie éternelle que nous avons aujourd'hui en nous passera simplement d'un état terrestre imparfait à un état intermédiaire, le paradisos, que la Bible appelle le repos, et qui est donc un stade d'attente avant la résurrection des corps. OK ? Pendant ce temps-là, vous faites quoi, en fait ? Quand je vais mourir, je ne vais pas vous faire peur avec ça. Parler de ma mort à moi, c'est celle que je connais le mieux. Quand je vais mourir, il va se passer un truc, c'est que je vais faire dodo. Quand vous dormez la nuit, en vieillissant, ça devient un peu compliqué, mais quand vous passez par des phases de sommeil profond, vous êtes conscient de quoi ? Ben de rien. Vous êtes conscient de rien, vous dormez. D'accord ? Et quand vous vous réveillez, il se passe quoi ? Ben vous êtes éveillé. D'accord ? Donc ici, c'est le même principe Jésus enseigne que c'est le même principe que le repos, que le sommeil. Et c'est pour ça que cette analogie du sommeil en rapport à la mort pour ceux qui sont en Dieu va être aussi. Rappelez-vous, pour ceux qui ont un peu de connaissance biblique, quand le roi Saül dans l'Ancien Testament, avant une grande bataille où il va perdre la vie, il veut savoir s'il va échapper à cette bataille, s'il mourra pendant cette bataille, il va s'adresser à une sorcière, à une tireuse de cartes pour connaître son avenir. Et il va dire, fais-moi revenir Samuel des morts, le prophète Samuel, qui est décédé à ce moment-là. Et la femme va faire ça. Et Samuel va revenir. Et Samuel, qu'est-ce qu'il dit à Saül ? Qui me dérange dans mon repos ? On l'a réveillé. Mais si on l'a réveillé, ça veut dire quoi ? C'est qu'il dormait. Il y a une très belle, je crois que c'est Dallas Willard qui emploie cette très belle métaphore, je trouve, très belle image. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle illustration. Je pense qu'elle est proche de la vérité biblique que Jésus va enseigner ici. C'est important, pour ça je prends un peu de temps quand même. Dallas Willard dit, mourir pour un chrétien, c'est, rappelez-vous, dit-il, quand vous étiez enfant et que vous jouiez avec vos jouets en fin d'après-midi, en début de soirée, vous aviez dîné, vous êtes encore en train de jouer, vous commencez à être fatigué et vous endormez en jouant. Et le lendemain matin, et vous êtes endormi, habillé avec vos chaussures, votre pantalon, votre petit t-shirt. Et le lendemain matin, vous vous réveillez en pyjama dans votre lit. Que s'est-il passé ? Vous n'avez pas de souvenir. Hein ? Votre papa, quand vous êtes endormi, vous a pris dans ses bras, il vous a changé, vous avez mis votre pyjama, il vous a mis au lit. Entre le moment où vous êtes endormi, dont vous n'avez plus aucun souvenir, et le moment où vous vous réveillez, dont vous n'avez pas de souvenir non plus, il s'est passé quoi ? Dans l'analogie biblique, vous avez été en repos, et vous avez été mis au repos, déconnecté, si vous préférez, jusqu'au moment du réveil, qui est la résurrection des corps. Donc, chassez de votre esprit toute idée d'âme désincarnée qui flotte dans les... L'âme désincarnée, c'est la pensée grecque. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Ça va, c'est... Ok, bon. Donc, revenons à notre brigand sur la croix, notre assassin. C'est donc une solide promesse que Jésus fait à cet homme. Il lui promet ni plus ni moins que son salut éternel. Jésus donne l'assurance à cet homme qui passe par la plus atroce des morts qu'il a la vie éternelle. Et que là où il craignait pire encore que ce qu'il expérimentait, il peut à présent avoir le cœur en paix. Je vais y venir. On va donc s'arrêter 2 minutes, si vous le voulez bien, sur les circonstances qui ont présidé à cette parole de Jésus. Il ne sort pas ça comme ça pour faire plaisir au type, en disant, bon, il souffre le martyr, et en plus, il va aller en enfer, donc je vais le rassurer à bon compte. Pas du tout. Il a dû avoir des éléments autour de cette déclaration de ce gars qui appelle, se crucifie à côté de lui, tout nu comme lui, « Seigneur, pense à moi quand tu viendras dans ton règne. » Il y a 4 points que l'on peut relever dans l'Évangile qui tournent autour de cette dynamique. Il y a d'abord, et ça c'est fondamental, il y a la crainte de Dieu. Le problème fondamental de l'homme, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Comment pourrait-il craindre quelqu'un auquel il ne croit pas ? Il y a en effet cette phrase que notre brigand adresse à son collègue, si je puis dire, brigand. « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui ?» Et il continue en disant, « Pour nous, ce n'est que justice, on mérite ce qu'il nous... » Vous vous rendez compte, c'est un juif qui est crucifié par des Romains. Et si les théologiens ont raison et les historiens ont raison, ce sont des gens qui ont passé leur vie à massacrer des Romains. Vous sentez déjà le revirement ? Il est en train de dire, « Ce que nous subissons est justice. Ces êtres que, j'ai détestés toute ma vie, ils ont raison de m'infliger cette punition parce que je la mérite. » Vous prenez conscience du retournement intérieur de cet homme. Alors, cette phrase est terrible, si l'on considère ce qu'elle suggère. En effet, voilà un homme qui est crucifié parce qu'il est probablement un assassin, qui subit le plus atroce des châtiments et qui ne devrait dès lors plus craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit. On pourrait se dire, après ça, qu'est-ce qu'on pourra encore craindre de pire, quoi ? Je suis en train de vivre le pire. Que peut-il lui arriver de pire ? Eh bien, notre ami sait, et c'est l'attitude de Jésus qui le lui rappelle au travers des paroles qu'il adresse à son Père sur la croix, il sait qu'il y aura après sa mort un moment plus terrible encore que la croix. Il y a encore un truc pire qui l'attend. Et cette chose pire, c'est le jugement de Dieu. Vous savez, moi je suis chrétien, j'ai l'Esprit Saint. Un jour, je vais rencontrer mon Seigneur et mon Créateur. Eh bien, rien qu'à l'idée, je n'ai pas peur d'une culture morbide, mais je sais très bien qu'il y a des trucs quand même qui ne vont pas être agréables. Et je n'ai aucun doute sur le fait que je vais manger avec lui, hein, malgré tout. Imaginez quelqu'un qui s'est assis dessus toute sa vie, qui a fait pipi sur Dieu toute sa vie, d'une manière ou d'une autre. Vous imaginez ? Alors lui, il vient de prendre conscience que Dieu est Dieu, qu'il existe, et que ce Dieu-là, ce n'est pas un grand-père avec une grande barbe jusque par terre qui va dire « Oh, que vous êtes tous mignons !» Il y aura un jugement. Quoi qu'on mette dans le jugement, hein, c'est peu importe. Hein. Il sait qu'il passera en jugement devant lui et que ce jugement-là qui reste à venir est bien plus terrible que le jugement qu'il subit à la croix. Il redécouvre, il n'aurait pas fait tout ça s'il en était conscient avant, il découvre la crainte de Dieu. Il a la révélation que Dieu est Dieu et que nos actes ont des conséquences. Il a entendu Jésus prier, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font, il en faisait encore partie il y a peu. En tuant des Romains, en vouant sa vie à des assassinats, et peu importe les raisons pour lesquelles il tuait des Romains, c'est clair que les zélotes, comme tous les terroristes de tous les temps, ils se trouvaient forcément de très bonnes raisons pour tuer des gens. Le nationalisme, ça revient en force, c'est une très bonne raison pour massacrer ceux qui ne pensent pas pareil. Hein. L'évangile de Matthieu révèle en plus qu'il se moquait lui aussi de Jésus au début. Et je cite Matthieu. Avec lui furent crucifiés deux brillants, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il comprend maintenant ce que disait l'un de ces textes sacrés qu'il connaissait certainement très bien. C'est le proverbe que tous les Juifs connaissaient. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Commence à être sage et avoir de la connaissance à partir du moment où on croit en Dieu. Pas un Dieu à bon marché, le Dieu de la Bible. Le Dieu, comme le dit le Deutéronome, terrible et redoutable. Pourquoi est-il terrible et redoutable ? Parce qu'il est saint. Et on peut s'arranger avec beaucoup de nos dysfonctionnements, mais Dieu ne s'arrange pas avec ça. Pour s'arranger avec ça, il donnait son fils sur une croix. Donc penser qu'on va relativiser tout ça et que tout le monde va se faire un gros câlin, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Le respect profond pour Dieu, c'est de ça dont on parle hein, quand on parle de crainte, le respect profond pour Dieu est le début de la vraie sagesse. On commence à réfléchir convenablement à partir de là. Avant, on fait de la philosophie et on pense qu'on pense. C'est l'homo sapiens sapiens. Le singe commence à penser et puis le singe dit « Oh, je pense !» Et là, c'est le début de la fin. Il faut donc être fou pour ne pas croire en Dieu et le craindre, en particulier lorsqu'on est sur le point de mourir. C'est ce qui arrive à notre petit ami. Là. Alors, vous aurez compris que la crainte de Dieu, c'est forcément bien plus que croire vaguement en Dieu, comme le disent encore beaucoup de gens de nos jours. C'est croire, on en a parlé assez les semaines précédentes, je n'ai pas revenu là-dessus, mais c'est avoir en fait la révélation du vrai Dieu trois fois saint. Il n'était pas là et là, il est là, pour la première fois. Et cette révélation qui est terrible, c'est vrai, mène à la repentance et au salut. On a plus d'illusions à ce moment-là. Lui, il est sur la croix, moi j'étais assis dans une chaise. L'impact elle-même, c'est on arrête de s'illusionner, on arrête de se trouver des excuses. La réalité ultime, la seule, la vraie, Dieu est là. C'est pour ça que sa croix, à la limite, il la relativise, hein, il rigole pas, mais... Il y a Dieu qui est apparu quelque part. C'est donc ici qu'intervient, donc retenez ça, hein, je récapitulerai tout à l'heure pour que ça s'imprime un peu, mais un, la crainte de Dieu. Elle n'y était pas, elle y est maintenant. À travers certaines phrases qu'il a entendues prononcées par Jésus, il commence à comprendre. Il comprend, la crainte de Dieu est là. Oh, tu peux déjà l'amener, c'est une bonne idée. Merci. C'est ici qu'intervient, j'y ai fait un petit peu allusion, notre deuxième point. dès que vous y êtes là, la crainte de Dieu, ça y est, Dieu est là, ça y est. Le deuxième point qui vient tout de suite, c'est la prise de conscience de son péché qui va le mener à la récompense. Il a devant lui le Dieu saint, et lui est un pécheur, et un meurtrier, un assassin. Même s'il a fait ça, en pensant honorer Dieu peut-être. C'est grâce à cette prise de conscience que notre assassin se rend compte de ce qu'il est, de qui il est. Autrement dit, il ne se fait plus aucune illusion sur son propre compte. Ça, c'est terminé, ça. Parce que Dieu est là. La crainte de Dieu est là. Moi, je pense souvent à mes amis qui ne connaissent pas Dieu et qui vont se retrouver en une fraction de seconde devant lui. Quand peut-être ça sera après, quand Jésus sera revenu. Mais écoute, déjà moi, je ne suis pas à l'aise. Oui, mais il m'aime, il va m'accueillir. Je sais ça. Mais vous rendez compte? J'ai toujours nié ce Dieu. J'en ai rien à foutre toute ma vie durant. Et là, il est là. Tu croyais que ça va faire du bien? Moi, je pense que ça ne va pas faire du bien. Ça va être terrible, mes amis. Et Jésus sera là aussi. Le Christ sera là. Il sera là. Et les gens diront, moi, j'en ai jamais rien à foutre de ce gars. Et il est là, C'était vrai, tout ça. Et je refais une petite parenthèse. Et il y avait des gens autour de moi qui savaient, qui m'ont rien dit. Hop là, allez, je vais replacer, ça fait du bien. Il ne se fait plus aucune illusion sur son compte. Il ne pourrait pas, c'est fini. Il sait qu'il est un pécheur, il sait qu'il est un assassin. En fait, il sait qu'il mérite son sort. C'est pour ça qu'il dit, on mérite ce qui nous arrive, mais pas lui, pas ce Jésus-là. Mais toi et moi, on mérite ce qui nous arrive. Pourquoi l'autre n'a pas fait cette prise de conscience? Parce que pour l'autre, Dieu n'est pas là. Pour la première fois de sa vie, il ne se cache plus derrière la malchance, les blessures, les souffrances ou l'occupation romaine pour justifier ses actes. C'est fou ce qu'on peut justifier, le pire que l'on commet. Il se voit tel qu'il est. Il est un pécheur. Il n'est que ça. Et pour la première fois de sa vie, il le sait. Il n'a plus rien. Dans le contexte juif, il n'a plus rien à espérer, même de la loi de Moïse et des traditions de ses ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Et de ce fait, même, il n'aura jamais l'occasion de se racheter une conduite éventuelle, de devenir pharisien à son tour, de devenir scrupuleux dans l'observance de la loi. Pour lui, c'est fini, il va mourir. Donc si le chemin, c'est l'obéissance à une loi, il est mort, Et avec lui, tous ceux qui sont sur un lit de mort, en train d'agoniser, qui vont mourir, ils sont mal aussi parce qu'ils ne pourront plus jamais rien faire, soi-disant pour plaire à Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui se convertissent sur leur lit de mort. Parce que Dieu est là. Si les bonnes actions de l'homme lui garantissent l'assurance qu'il est sauvé, il n'a plus rien à espérer, sinon le pire. Parce que sa vie est finie. Donc toutes ces illusions et ces circonstances atténuantes se sont envolées face à la prise de conscience qu'il est pécheur et que Dieu est saint, et c'est ce qu'on appelle la repentance. Celle-ci est l'effet produit par la rencontre première du Dieu trois fois saint et du pécheur à l'initiative du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est à la croix. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer dans tout le cheminement du jugement de Jésus et de le fait qu'il porte la croix. Tout le chemin à la crucifixion, l'Esprit Saint est là. Petite anecdote, il est là. J'y viendrai, parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas de conversion. La Trinité est à la croix. Pas Dieu en tant que fonction, mais le Père est là aussi. La repentance est l'effet produit par la rencontre du Dieu Saint et du pécheur à l'initiative du Saint-Esprit. Impossible de ne pas se repentir quand Dieu est en face de vous. Et ceci nous amène à notre troisième point. Cet homme a la foi en l'œuvre de Christ et en sa royauté. Notre assassin sait maintenant qu'il est seul devant Dieu et qu'il ne pourra pas s'en sortir. Son cas, comme le cas de tous les hommes, j'insiste, est désespéré. Si ça s'arrête là, pourtant il sait, il a compris que l'homme crucifié à côté de lui est plus qu'un homme. C'est pour ça que c'est l'Esprit qui dit, parce qu'autrement il ne pourrait pas comprendre ça. L'homme crucifié à côté de lui, il le sait, est plus qu'un homme. Une des dimensions quand Dieu vraiment est là, que vous passez par ce moment, cette nouvelle naissance, vous savez forcément dans ce moment que la sortie c'est Jésus. Que c'est lui le passage, qu'il est le Messie de son peuple et de l'humanité entière. Que cette mort qu'il partage avec son Seigneur ne signifiera pas la mort pour lui. Il sait que ce que Jésus accomplit, il le fait pour lui. Il a compris ça. Autrement, Jésus n'aurait jamais dit « Tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui. » Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et ce chemin et cette vérité ont mené le Fils de Dieu à la croix afin que la vie puisse justement triompher de la mort et de la mort de cet assassin sur la croix. Il sait que Jésus est roi, mais qu'avant qu'il ne vienne dans son règne, couronné de gloire, il doit porter pour couronne le rejet et l'humiliation. Ce sont les épines avant le triomphe. Jésus doit d'abord le sauver, cet homme. Lui, par sa mort, et beaucoup d'autres après lui. Puis il y a cette phrase extraordinaire, hein, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Ça, c'est profession de foi. Ça se passe en 3 heures. On sait que Jésus, l'Évangile le dit, a tenu 3 heures, en fait. Hein, il est mort en 3 heures. En 3 heures, on passe de pauvre type à « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Et dans les pires conditions qui soient. Hein. Alors quand on me dit « Oui, mais tu sais, c'est difficile parce que les conditions ne sont pas arrêtées de parler de conditions. » Quoi. Là, je sais, qui aurait mis un copec dans ce que Dieu était capable de faire dans des moments pareils? Eh ben, non seulement il perd son fils, enfin entre guillemets, il donne son fils dans d'atroces souffrances et il parvient quand même à en emporter un avec. C'est incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre assassin, notre frère, a même vu la résurrection. Il a vu sa résurrection. Parce que le règne à venir, il est à venir. Hein. S'il lui dit « ne m'oublie pas quand tu reviendras », c'est qu'il sait qu'il va revenir. Et que potentiellement, lui, avec aussi. Il n'a pas eu un grand cours de théologie avec Henri Blocher, hein, pour ceux qui connaissent. Il n'a pas eu cette théologie systématique avec Henri Blocher. Lisez son livre « Sur ce passage, Henri Blocher, vous n'allez plus rien comprendre du tout. » Je plaisante, hein, les théologiens, voilà. Il décortique. Hein. Ce sont les chirurgiens de la théologie. Hein. Il sait, malgré toutes les évidences qui s'y opposent, à commencer par sa propre mort, il sait que tout ça n'empêchera pas Jésus de vivre et d'instaurer son royaume. C'est la foi, ça, mes amis. C'est incroyable. Hein. Et c'est la preuve que notre ami a cru et qu'il a la foi. Vous ne pouvez pas affirmer des trucs pareils profondément, surtout dans un moment pareil, si vous n'avez pas la foi, celle qui sauve. Car on ne peut croire en la résurrection que si on a la foi. Relisez 1 Corinthiens 15, ça ne parle que de ça. Alors les chrétiens qui me disent « Oui, la résurrection, moi je ne suis pas convaincu, ils ne sont pas chrétiens. » Bon, pas très compliqué. Hein. Vous ne pouvez pas amputer des pans entiers de l'enseignement du Christ en disant « Ben voilà, moi ça ne m'intéresse pas, ça me... » Donc ce qui s'est passé à la croix pour ce brigand, et je termine, est totalement fou. Au travers de quelques paroles et d'une certaine situation, sa mort tout de même, on est d'accord, hein, l'Esprit de Dieu a trouvé son chemin et inaugure son ministère de conversion à la croix. C'est à la croix que l'Esprit Saint a commencé son ministère, qui sera une partie de son travail après l'ascension de Jésus et après sa résurrection, à savoir convaincre le monde de jugement et de péché. Je relis ça, Jean 16, 8. Quand il sera venu, c'est Jésus qui parle à ses disciples, un peu avant d'être arrêté. Quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus réaffirme ici le péché fondamental de l'homme. Il ne croit pas en Dieu. Donc quand vous avez votre meilleur ami qui vous dit « Oui, moi je suis un mec plutôt bien », le problème n'est pas là, mon grand. Peut-être que tu es un pécheur, mais je n'ai pas passé ma vie à investiguer dans ta vie pour te prouver là où tu es à côté, là où tu n'es pas ce que tu devrais être. Mais ne pas croire en Dieu, c'est le premier des péchés. Voilà. Imaginons même qu'un athée, ça existe. Hein, voilà. Imaginons même, hein, c'est impossible, mais soit. On jette la Bible par la fenêtre 2 minutes et on dit, un athée, il vit une vie mais de consécration aux autres, c'est un homme merveilleux. Mais il ne croit pas en Dieu. Eh bien, il est foutu. Voilà. C'est pas compliqué la théologie. Hein. Donc, si vous êtes chrétien, si vous êtes né d'en haut, né de l'Esprit Saint, né de nouveau, comme le dit Jésus en Jean 3, vous êtes obligatoirement passé par ces 4 points. Vous êtes passé par là, ou vous n'êtes pas chrétien. Alors, nous avons commencé avec Oswald Chambers, nous allons terminer avec lui. On va remettre sa photo au petit. Voilà ce qu'il dit. Dans la nouvelle naissance, donc dans cette naissance de l'esprit, Dieu accomplit 3 choses impossibles du point de vue rationnel. La première de ces choses, c'est qu'il efface le passé d'un homme comme s'il n'avait jamais existé. C'est ce qui s'est passé avec cet assassin. Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé. Voilà, tu fais partie de ma famille. Mais Seigneur, je suis un assassin. Rappelle pas. T'es passé, t'es effacé. La deuxième chose, c'est qu'il transforme cet homme de fond en comble. Ça, c'est la sanctification. Mais rappelez-vous, hein, je rappelle, on participe à sa sanctification. Ce n'est pas en restant haché sur une chaise, en bougeant en rien, en n'ouvrant pas la Bible, en ne priant pas, en vivant la vie comme vous voulez, qu'il faut s'attendre à être sanctifié. On est participant à sa sanctification, hein, avec l'Esprit Saint. Et la troisième chose, c'est qu'il accorde à cet homme d'être sûr de Dieu, conviction du salut, sûr de Dieu, comme Dieu est sûr de lui-même. Et tout ça sous la conduite de l'Esprit. Ce sont les éléments du salut. Si vous avez connu ça, vous ne devez plus avoir peur, mais avoir de l'assurance et mettre votre casque, car on ne sait jamais. Nos pensées, notre nature sont tellement faibles et notre ennemi tellement rusé. C'est un truc ou qui va attaquer, c'est votre assurance concernant votre salut éternel. Il parvient à vous faire douter de ça, mes amis, encore une fois, vous êtes mal, je suis mal. La vie de ce brigand sur la croix a été totalement changée, mais seules 3 personnes l'ont su. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, cet homme n'aura jamais eu l'occasion d'enfiler son armure spirituelle. Il n'aura jamais eu la chance de témoigner du changement dans sa vie. Il n'aura jamais eu le privilège, parce que c'est un privilège, hein, de partager sa foi et de rendre témoignage à cette vérité. Il n'aura jamais l'occasion de croire envers et contre tout que le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et de le proclamer au monde. Il n'aura jamais eu cette chance. Nous avons cette chance et ce privilège. Alors, enfilons notre armure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.